Amen. Et merci aux jeunes pour ces chants qui nous amènent doucement à la présence de Dieu qui a toujours une parole à nous donner. Dieu avec nous est en relation par la parole. On ne le touche pas, on ne le voit pas, on ne peut pas le sentir, mais il parle et nous entendons sa voix. J'aimerais prier quelques instants avec vous pour que s'il parle que notre cœur, parce qu'il est branché sur notre cœur, que notre cœur l'entende. Prions. Face au mystère de la mort, au mystère de la vie éternelle, face au mystère, à tous les mystères de la vie, nous n'avons qu'une vérité, nous n'avons qu'un seul chemin pour aller et continuer, c'est toi. Nous voulons nous mettre à l'écoute de Dieu, à l'écoute de l'Évangile en ce jour, pour recevoir la plus belle espérance, parce que tu n'as pas lancé l'être humain dans l'espace et pour l'abandonner, mais tu l'aimes, tu l'attires, tu l'appelles, et nous voulons te dire, nous voici Seigneur. Amen. Vous m'entendez bien, ça va? Tout est bon? Oui. Je voudrais faire une lecture dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15. On ne va pas lire tout ce que la Bible nous dit sur la mort, mais juste quelques versets. 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Voyez-vous, on se posait la question il y a 2000 ans. Comment on ressuscite? Quel sera notre futur corps? On se pose des questions et j'aimerais essayer de répondre partiellement à quelques-unes. L'apôtre, dans son message, écrit ensuite « insensé », autrement dit « réfléchis », « ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Et au verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ou périssable, mortel. Il ressuscite incorruptible, immortel. Il est semé. » Semé, vous comprenez la parole, c'est-à-dire mis en terre, déposé. Il est semé méprisable, c'est-à-dire faible. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, terrestre, humain. Il ressuscite corps spirituel, c'est-à-dire céleste. S'il y a un corps naturel, le vôtre et le mien aujourd'hui, il y a aussi un corps spirituel. Voici le texte et je dis amen à la parole de l'apôtre Paul qui est une lumière pour notre chemin. Mes amis, qu'avons-nous à dire sur la mort? Vraiment, en vérité, très peu de choses. Parce que nous sommes du côté qui ne voit pas, du côté qui ne sait pas. Nous n'avons aucune expérience de la mort. Nous n'avons pas dit « je vais voir et je vais me faire une idée ». Si nous entrons dans la mort, nous ne revenons pas. C'est un moment de notre existence qui n'est pas mesurable humainement parlant. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le mesurer. C'est pourtant le moment l'un des plus importants, puisque c'est un achèvement et c'est un commencement. Alors Jésus, quand il va mourir sur la croix, à quelques centimètres de lui, il y a deux brigands, deux malfaiteurs qui meurent, comme lui sur la croix. Ils vont mourir dans quelques minutes. Jésus ne donne pas une explication aux brigands. C'est quoi mourir ? Qu'est-ce que je vais ressentir ? Jésus donne simplement une espérance. Un petit flash de lumière qui traverse ce moment mystérieux, inconnu. Aujourd'hui, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Cette parole, elle est comme un pont sur la vallée sombre de la mort. Tu seras avec moi. Et David, dans le psaume 23 que nous aimons, il dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi dans la vallée de la mort. Aujourd'hui, immédiatement, tu seras avec moi. On me pose parfois la question, et parfois on me dit avec affirmation, mourir, c'est dormir, c'est un sommeil. Je ne crois pas, même si parfois on prend ces mots pour faire des faire-part de décès, il s'est endormi, son sommeil sera doux. Quand nous mourrons, nous ne devenons pas inconscients, nous restons bien nous-mêmes, éveillés, dans la mémoire aussi, en attendant la résurrection. Je sais que Jésus a dit, en allant ressusciter Lazare, il a dit à ses apôtres, « Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. Il dort, je vais le réveiller. » Mais à chaque fois que nous avons ce mot « dormir », « sommeil », c'est une image pour nous montrer que la mort, c'est pour un temps, comme le sommeil, c'est pour un temps. Ça ne va pas durer. Mais Jésus dit, en allant voir Lazare, qui est mort et enterré depuis 4 jours, il dit clairement, Lazare est mort, vraiment. Nous disons sommeil parce que nous voyons les choses de la terre. Nous voyons les choses d'en bas et on a l'impression que les morts sont en train de dormir. Je me souviens avoir vu assez souvent des morts dans ma vie, dans la chambre funéraire, à l'hôpital, dans ma famille, et j'avais l'impression qu'ils allaient se réveiller, tellement je sentais que c'était possible. Impression qu'ils dorment. Parce qu'ils ne parlent plus, ils sont reposés, parce qu'ils ne travaillent plus. Parfois, on voudrait les réveiller. On voudrait dire, maman, reviens, papa, reviens. Ainsi, nous avons une fausse impression sur la mort qui serait un sommeil dans lequel les défunts seraient complètement engourdis, anesthésiés. Mais l'apôtre Paul, je vais dire la Bible, je vais dire Dieu, quand il nous parle de la mort, ils disent que les chrétiens, les croyants, quitteront leur corps dans la mort pour demeurer auprès du Seigneur. Demeurer. Et Paul, il dit encore quelque chose de plus audacieux. Il dit, j'ai le désir de m'en aller avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est audacieux. Ne pensez pas que les croyants doivent mépriser la mort en disant ben, vivement qu'on y soit, mépriser la vie plutôt. Parce que pour l'apôtre Paul, qui était prêt à mourir, il allait être jugé, il s'attendait à être décapité, à mourir, il dit, de toutes les façons, j'ai le désir de m'en aller parce que là, ce sera le meilleur. Être avec le Christ. Donc, une conscience. Être avec le Christ. Si je dors, je n'ai pas conscience que je suis avec quelqu'un. Être avec lui. Le Christ lui-même n'est pas inconscient, endormi. Il n'est pas sur une terre désolée, dans une vie désolée, comme une ombre. Il domine sur tout. Il est avec vous aujourd'hui, il sera demain. Il sera éternellement avec ceux qui l'aiment, de tout leur cœur. Donc, pas un sommeil, mais en compagnie de Jésus, conscient. Être avec le Christ, comme dit Paul, ça signifie pour moi une grande joie, une grande consolation, inconnue sur terre. Sur terre, nous avons des chers amis, des parents, des enfants qui peuvent nous apporter de grandes consolations. Mais là, nous serons avec le Christ et nous serons guéris, consolés de toutes les souffrances de la terre. C'est le paradis, a dit Jésus. Tu seras avec moi dans le paradis. Dans la Bible, dans les épîtres aux Hébreux, il y a toute une foule de témoins, de gens qui sont partis, qui ont conscience de ce qui se passe sur la terre. Nous sommes environnés d'une grande foule de témoins. Témoins, ça veut dire ils nous regardent aussi, ils savent quelque chose sur nous. Comme dans la Bible, on voit des personnes qui ont conscience de ce qui se passe encore sur la terre. Comme le mauvais riche qui meurt et qui se rappelle qu'il a des frères et il ne voudrait pas que ses frères viennent où il est. La conscience. L'Apocalypse nous donne quelques petits flashs sur l'au-delà, sur la mort, en disant que les âmes de ceux qui sont morts sont montées au ciel. Apocalypse 6 et 7. Et là, ces âmes, je ne sais pas comment c'est. Là, il y a une part de mystère que je ne peux pas vous révéler, parce que je ne sais pas. Et ces âmes prient le Seigneur. Donc, conscience. Conscience de là où ils sont, devant qui ils sont, pourquoi ils sont là. Ils prient le Seigneur et ils célèbrent le Seigneur. Ils chantent le Seigneur. Actuellement, à l'heure où je vous parle, tout là-haut, il se passe des choses étonnantes. Que chantent-ils? Nous avons même les paroles, je n'ai pas la musique. Il y a les paroles dans la Bible. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau Jésus-Christ. Voilà. Voilà le cantique des âmes qui sont arrivées aujourd'hui dans la présence de Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce mauvais riche. Il y a des bons riches aussi. Mais cette histoire de l'Évangile où il y a un pauvre qui s'appelle Lazare et un riche, ils sont à côté, ils habitent pratiquement sur le même seuil parce que le pauvre, il est là devant la maison du riche, qu'il ne lui donne aucune miette, aucune goutte, rien, et les deux vont mourir. Et Jésus-Christ nous raconte cette histoire pour lever le voile quelques instants, pour ouvrir un cercueil quelques instants, et nous dire que le pauvre Lazare, qui avait confiance en Dieu, d'ailleurs son nom veut dire « Dieu est mon secours », ce pauvre Lazare, il est dans le royaume d'en haut, consolé, apaisé. Il a attendu toute sa vie, il a souffert toute sa vie, il a eu confiance en Dieu toute sa vie, et il est consolé. Et le riche qui a méprisé Dieu, qui a méprisé, quand on méprise le pauvre ainsi, on méprise Dieu, et qui est dans le séjour des morts et qui prie pour que ses frères ouvrent les yeux sur l'importance de la mort et de l'au-delà. Donc il y a une conscience, quelque chose qui se passe quand nous franchissons la porte de la mort. Les frères et sœurs, parce qu'on les appelle comme cela, hein, les frères et sœurs qui sont partis sont dans la plus heureuse compagnie, mais ils attendent l'avènement du Christ, le retour du Christ. Ils sont dans un état intermédiaire. Ils ne sont pas encore dans la perfection, dans la, toute la force de leur résurrection. Ils sont dans un état intermédiaire parce qu'ils n'ont pas leur corps. Sans notre corps, nous sommes incomplets. Ça paraît évident. Sans notre corps, nous sommes inachevés. Sans notre corps, quelque chose reste vaincu par la mort, caché dans la mort. C'est comme un échec. Nous sommes faits pour être dans un corps, avec une âme, un esprit. Mais Jésus a dit qu'il allait transformer notre corps faible, fragile, qui se dégrade au fil des années. Il allait le transformer pour le rendre semblable, semblable, le mot est fort, à son corps glorieux, parce qu'il a la puissance de dominer sur tout. Il domine sur tout l'univers et il ne laissera rien de nous oublier dans la mort. Les morts attendent leur corps. Ils sont toujours dans l'espérance, mais une espérance certaine, joyeuse, comme la nôtre d'ailleurs. L'espérance que Dieu nous redonnera ce corps. Parce que Dieu a la passion du corps humain. Jésus s'est incarné pour nous sauver. Il aurait pu nous parler à travers un nuage. Il s'est incarné pour nous sauver. Il est devenu corps. Il est ressuscité dans un corps. Il nous a sauvés en donnant son corps, son sang sur la croix. Dieu a la passion du corps. C'est extraordinaire, hein? Parfois, dans certains milieux religieux un peu extrémistes, on méprise le corps. On dit, bon, ça vaut rien, le principal, c'est l'âme. Ne cassons pas l'être humain. Il est un corps, il est une âme, il est un esprit. Donc nous resterons des êtres humains éternellement, parce que nous ressusciterons corporels, dans un corps, comme Jésus, avec un corps céleste, pas un corps vaporeux, pas un corps nébuleux, liquide. Nous resterons dans un corps adapté au royaume des cieux, adapté à l'éternité. Paul dit, l'apôtre, vivre, c'est Christ. C'est être avec le Christ. C'est être comme le Christ. Et il dit une parole que je trouve pas facile à dire. Christ est ma vie et la mort est un gain. Un gain, ça veut dire un avantage. On ne parle pas comme ça. Il était prêt à mourir. Il dit la mort est un avantage parce que partir avec Jésus, voilà comment j'explique la parole, c'est le couronnement de l'existence. C'est l'aboutissement. Si on vit, c'est pour le Seigneur. C'est pour aller vers lui. C'est pour être toujours avec lui. La mort, c'est ce qui va nous permettre la rencontre éternelle avec le Christ. Donc il dit, c'est un gain, c'est un avantage. Mais nous ne cherchons pas à mourir. Nous ne cherchons pas à partir maintenant. Mais il faut que notre espérance soit au-dessus des nuages. Ceux qui vivent avec le Christ, donc, sur la terre, ceux qui aiment Jésus, ceux qui croient dans ce qu'il a fait, dans ses paroles, dans ses actes, vivront toujours avec le Christ. Et déjà, ceux qui sont partis, j'ai de ma famille, vous avez de votre famille, ceux qui sont partis dans la confiance, enveloppés dans l'amour du Christ, ils sont déjà dans la maison du Seigneur, dans une grande joie. Ont-ils besoin de nos prières? Pourquoi? Pourquoi faudrait-il prier pour ceux qui sont arrivés et qui sont dans une consolation, une joie, une paix que nous n'avons pas sur la terre? Je vais plutôt prier pour vous, pour que, étant sur cette terre avec toutes les épreuves que vous rencontrez, vous puissiez connaître cette douceur de la présence de Jésus. Ils sont déjà dans la joie, ils attendent l'avènement du Christ qui arrivera au temps marqué. Certains attendent depuis des milliers d'années. Les apôtres attendent depuis 2000 ans. Au temps marqué, le Christ viendra et leur donnera un corps à eux et à nous. Comment les morts ressuscitent? Comment comprendre la résurrection des corps? Parce qu'il est bien dit dans la Bible, le corps ressuscite. L'apôtre Paul, il prend l'image de la semence de blé. Il dit, ce que tu mets dans la terre, ce n'est pas l'épi, c'est un grain, un tout petit grain, qui va mourir, qui va se défaire de ses enveloppes et qui va disparaître un temps et qui va donner l'épi avec tous ses grains. Ainsi est notre corps. Il est semé dans la terre, il est semé dans la mort. Il est mortel, mais il ressuscitera immortel. Notre corps est semé misérable, parce que les années qui passent font qu'il y a un délabrement, des souffrances irréparables. Il est semé dans cette douleur, cette fragilité, cette faiblesse, défait par tous les combats de la vie, défait par les combats de l'amour, parce que aimer, c'est donner beaucoup, beaucoup de fatigue, beaucoup de temps, beaucoup d'attente, et avec les années, on est tout défait par les soucis d'une fille, d'un fils, d'un mari, d'un enfant. Donc, notre corps est semé avec toute cette charge de mal, de maladie, d'infirmité. Mais Jésus le ressuscitera plein de force, plein de beauté, plein de jeunesse. Jésus ne va pas, comme souvent les peintres du Moyen-Âge l'ont vu, nous donner une résurrection. Ces peintres montraient les morts qui sortent des tombeaux et qui restent avec leurs bandelettes. Non. Jésus nous ressuscitera plein de force parce que nous ressemblerons à Jésus ressuscité. Nous lui ressemblerons. Il n'y a pas de plus beau cadeau sur la terre que de ressembler à Jésus. Parfois, les jeunes, ils essaient de ressembler à une star, une star de la chanson, du cinéma, mais là, nous ressemblerons à Jésus. Un corps immortel, ça veut dire qu'il ne vieillira pas, il n'aura pas de fatigue, il n'aura plus de fatigue, il n'aura plus de maladie, il ne portera aucune blessure sur lui. Ce corps de résurrection, pour moi, sera le chef-d'œuvre de la future création de Dieu, ce corps de résurrection. Il ne faut pas regarder seulement ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut regarder ce que nous deviendrons. Au cimetière d'Omaha Beach, plage du débarquement, ce cimetière avec 10 000 tombes, il y a un grand monument sur lequel les Américains ont écrit « Ne regardez pas leur mort, mais considérez leur résurrection. » Parce qu'ils sont là, en lambeaux, 1000 morceaux. Regardez leur résurrection. Jésus dit, les croyants, les justes, pardonnés, resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père Céleste. Comme le soleil, nous sommes appelés à une grande carrière, un grand avenir. Et notre modèle à nous, ce qui me rassure le plus, c'est Jésus ressuscité. Quand il a été transfiguré sur la montagne avec 3 de ses apôtres, comme un instant de résurrection, son visage resplendissait comme le soleil. Ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Il était resplendissant. Nous serons resplendissants. Parce que en nous, il y aura une lumière. Notre vie sera habité par l'amour, habité par Dieu. Dieu sera en nous. Quand on était enfant, on jouait avec des piles électriques, des lampes électriques, et on la mettait dans notre main, et notre main était toute comme pleine de lumière. On ne voyait pas les os à travers, ce n'était pas une radiographie, mais la simple lumière de la lampe donnait de la lumière à notre chair, à notre main. Et la présence de Dieu dans la résurrection en chacun fera que nous serons lumineux, pleins de force, de joie, de vie, de vitalité. Ce corps céleste qui sera fait de chair et d'os, vous me suivez ? Jésus ressuscité dira à ses apôtres, regardez-moi, j'ai de la chair, j'ai des os, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas vaporeux. Ce corps céleste sera un chef-d'œuvre, une perfection, une beauté pour l'éternité. Et Jésus sera comme nous et nous serons comme lui. Paul dit que ce corps de résurrection sera la suite. C'est là qu'on m'a posé des questions. Je ne peux pas répondre à tout, mais je vais répondre. On m'a posé la question, est-ce que ce sera un autre corps ou est-ce que ce sera notre corps d'aujourd'hui qui va se transformer ? Paul dit que notre corps de résurrection, comme le grain de blé, ce sera la suite du corps d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre de plus en plus vieux, avec de plus en plus de rhumatisme et de moins en moins de cheveux. Mais ce sera quand même la suite, comme l'épi est la suite du grain qui a été bousculé, jeté dans la terre, dans l'ombre, oublié, enterré, enfoui. Et la suite, c'est l'épi. Jésus dit qu'il transformera notre corps d'humiliation, notre corps d'aujourd'hui. Ce ne sera pas un autre corps. Ce corps-là sera transformé, il ne sera pas abandonné, il sera utilisé. Utilisé pour le corps de résurrection. L'apôtre Paul dit, il rendra la vie à nos corps mortels. Bien sûr, la question, vous allez me la poser, non, peut-être. Mais, pasteur, il y en a qui sont morts et qui ont été brûlés, qui n'existent plus physiquement, sont morts depuis des milliers d'années, on n'a plus aucune trace, on n'a plus aucun grain, on n'a plus rien. Leurs cendres ont dû aller dans les eaux et dans les plantes, puis ça refait le cycle de la nature. Et comment Dieu peut-il récupérer notre corps qui n'existe plus. Avec une cellule souche, on peut faire beaucoup. avec une semence humaine, petite, invisible. On peut avoir un enfant, une famille, une descendance, des centaines de descendants, une cellule, petite. Et j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à notre code ADN, qui est le plan de montage de tout notre organisme. Dieu a mis dans notre organisme invisible, il a mis un code. Vous avez des codes parfois pour rentrer chez vous. Il a mis un code, le code de l'ADN. Et ce code, eh bien, il va aller comme les autres, il va disparaître, mais Dieu le connaît. Chacun a son code ADN. Et Dieu, il n'oublie rien. Il ne peut pas oublier quelque chose. Et Dieu, il a le code dans la mémoire. Alors s'il n'y a plus le corps sur la terre avec les années, les siècles, les millénaires, il reste toujours le code avec ses 20 lettres. Il y a 20 lettres dans ce code mystérieux qui me dépasse, ce n'est pas mon domaine. Et pourtant, il est en moi et en vous. Et avec ces 20 lettres, Dieu peut reconstituer ce qu'il veut en ajoutant une lettre en plus. Au début, il y avait Abraham, et son nom c'était Abraham. Un peu sec, Abraham. Et Dieu a ajouté une lettre, un H, Abraham. Et peut-être qu'avec nous, il va ajouter quelque chose à notre code ADN, quelque chose qui s'appelle la beauté, la grâce, la lumière sur nous. Dieu est donc capable, à partir de presque rien, parce que tout est dans sa mémoire, il est capable de ressusciter, de redonner ce corps, puisqu'il en a la clé et le code. Ce sera mon corps, mais transformé. Quand Jésus est ressuscité, c'est lui qui est ressuscité, c'est pas un autre. Marie de Magdala est allée au tombeau et elle cherchait le corps de Jésus, et ce corps, il n'était plus là. On ne lui a pas dit, bon, il est là, mais il est quelque part ailleurs ressuscité. Il n'était pas là. Elle ne le voyait pas et elle pleurait. Et Jésus était derrière elle, ressuscité, transformé, comme nous le serons par la puissance du Saint-Esprit. Donc, mes amis, j'arrive à la conclusion, dans notre corps actuel, je vous rappelle que quand Dieu nous a créés, la Bible dit, comme un petit refrain qui revient, Dieu vit que cela était bon. Bon et beau, c'est le même mot. Je ne dis pas que tous ceux qui sont beaux sont bons. Je ne dis pas que ceux qui sont bons sont beaux. Mais c'est le même mot en hébreu. La Bible dit que Dieu vit que cela était bon en faisant le corps humain. Et ce corps, il n'est pas inutile, il n'est pas sale, il n'est pas méprisable, il n'est pas rien. Ce n'est pas une vulgaire bouillie. Ce corps entrera dans la nouvelle Jérusalem du ciel. Après transformation. On ne pourrait pas monter comme ça. Après transformation, après résurrection. Jésus est parti au ciel pour l'éternité avec le corps que lui a donné Marie. Et ce corps, c'est vraiment le corps de Jésus qui s'est transformé. Et notre corps se transformera, mais il restera toujours quelque chose de nous. On me pose la question toujours, croyez qu'on se reconnaîtra? Moi, je le crois. J'aurais changé, vous aussi. Mais je crois que quelque chose en nous sera comme un petit déclic. Quand les apôtres ont vu Moïse sur la montagne avec Jésus, ils n'avaient jamais vu Moïse. Et ils ont reconnu Moïse. C'est fort quand même les chrétiens. Ils ne l'ont jamais vu, ils le reconnaissent. Alors que moi, on me voit parfois souvent et on ne me reconnaît pas. C'est bizarre quand même. Alors, mes amis, frères et sœurs, que restera-t-il de notre vie? Ça va pour l'instant? Dieu n'oublie rien. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'oublie rien. Aucune cellule de notre corps, aucune journée, tout est dans sa mémoire. Pourtant, je ne sais pas ce que nous allons emporter, puisque la Bible dit bien, nous sommes venus nus, nous repartirons nus. On est venu sans rien, on repartira sans rien, même si vous mettez sur votre tombe une pyramide. En Chine, il y a des statues de terre, des soldats en statues. Et ces statues représentaient les soldats qui devaient accompagner l'empereur de Chine dans la mort. Mais les statues sont restées sur la terre, des milliers, des milliers. Et lui, il est parti. Qu'allons-nous emporter? Jésus disait à un riche qui était vraiment très content de lui, qui avait réussi dans ses affaires, Jésus lui disait, ce que tu as préparé, ce sera pour qui? Voulant dire, ce ne sera pas pour toi. Pour qui ce sera? Qu'allons-nous emporter de toute cette histoire? Le livre de l'Ecclésiaste dit, ce que nous avons, ce que nous ferons, ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront après. Pas de souvenir chez ceux qui vivront après. C'est triste quand même, hein? On nous oubliera. Vous êtes prévenus, on nous oubliera. Dites-moi, dans 3000 ans, de qui allons-nous nous souvenir du XXe siècle? Peut-être Charles de Gaulle. C'est tout, à peu près. On ne se rappellera pas. Il n'y aura pas de souvenir après nous. Mais Dieu n'oublie pas. Tout est dans sa mémoire. Chaque parole, chaque geste. On dit maintenant un mot très moderne, tout est sauvegardé. Tout est sauvegardé. Dieu garde la trace, la moisson de chaque jour. La moisson de bien de chaque jour. Jésus disait souvent, vous ne perdrez pas votre récompense. Votre récompense sera grande dans le ciel. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc nous garderons quelque chose de ce que nous avons fait sur la terre. Ce qui t'a fait demander pardon à ton frère, sans que personne le sache, ce ne sera pas perdu. Toute la force de ton courage là que tu as manifesté quand tu étais seul dans le froid et que personne t'a vu, ce ne sera pas perdu. Dieu recueille les fils de notre vie. Quand nous sommes à lui, toute notre vie l'intéresse. Il recueille tous les fils d'or de notre vie pour tisser l'étoffe de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, elle commence maintenant. Ce n'est pas demain, ce sera beau, maintenant on fait tout ce qu'on veut. Non, la vie éternelle, ça commence aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, il est dit que les robes, il y aura des robes, mesdames et messieurs, les robes, les croyants qui seront dans le ciel, ce sont des robes de fin lin. Ce sont des robes qui ont été faites avec les œuvres, les actions, les paroles sur la terre. Surprenant. On aurait des surprises. Parce que ce sont souvent des œuvres cachées, des œuvres qui n'ont pas fait d'apparence. Ils ont été discrètes. Enfin, je termine avec ce verset pour vous montrer ce qui restera de nous. Qu'est-ce qu'on va emporter? Souvent, j'ai fait des obsèques et dans les cercueils, les gens mettent des souvenirs, des photos, des livres, même un casque, etc. C'est extraordinaire, on a l'impression qu'il faut partir avec quelque chose. Eh bien, voici ce verset de l'Apocalypse. Heureux dès maintenant, Apocalypse chapitre 14, heureux dès maintenant, les morts, ils sont heureux maintenant, les morts qui meurent dans le Seigneur, dans la foi. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Derrière nous, il y a un train qu'on emportera dans le ciel, un train de bonnes actions, de paroles, de partage, de consolation, de bienfaits. Et Jésus va un peu plus loin. Permettez qu'il nous étonne. Jésus va un peu plus loin. Il semble dire dans l'évangile de Luc, chapitre 14, « Préparez-vous votre héritage là-haut. Préparez-le. Attendez pas que ça vienne tout seul. Tout ce que vous faites aura des conséquences. Mais vous provoquez les conséquences. Quand tu veux faire un repas, dit Jésus, n'invite pas tes amis, tes voisins riches, parce qu'ils vont te rendre le repas. Bon, on s'est vu aujourd'hui, 1er novembre, on va remettre ça peut-être à Noël. On se réinvite. Jésus dit, quand tu fais un repas, invite les pauvres, invite les estropiés, invite les malades, invite les aveugles, parce qu'eux ne pourront pas te rendre le repas. Étonnant, Jésus, hein? Et il te sera rendu à la résurrection. Nous emporterons quelque chose. Mais je veux conclure avec peut-être ce point important, ce petit pas que nous allons faire sur terre, ce tout petit pas, enfin petit à nos yeux, qui est le plus grand pas humain, nous l'emporterons là-haut. Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne le mettrai pas dehors. »